Le 20 novembre dernier, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn ont dévoilé un plan d'urgence pour l'hôpital public, comprenant des primes pour les personnels, une rallonge budgétaire d'1,5 milliard d'euros et une reprise partielle de la dette des établissements. C'est le troisième plan pour l'hôpital public en quelques mois seulement pour répondre au malaise des personnels soignants, à la grève qui dure depuis près de 9 mois dans les services d'urgence et à la grande mobilisation nationale. Soignants, médecins, infirmiers se disent au bout du rouleau et affirme ne plus pouvoir soigner les gens comme ils le voudraient. Sophie Crozier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, responsable de l'unité des urgences cérébro-vasculaires, membre cofondatrice du collectif Interhôpitaux qui appelle à une nouvelle manifestation nationale aujourd'hui. Ça veut dire qu'après l'annonce du plan d'urgence la semaine dernière, si vous maintenez la manif, c'est que vous n'êtes pas satisfait ?
Non, on n'est pas satisfait du tout. Depuis des mois, le collectif Interurgence se mobilise. D'abord pour les services d'urgence, parce que c'est là où probablement ça se passe le plus mal. Mais ça se passe mal dans les services d'urgence parce que l'hôpital globalement va mal et ne peut pas accueillir les patients. Donc depuis 8 mois, et nous depuis le mois de septembre, on a rejoint donc avec le collectif Interhôpitaux ce mouvement pour réclamer des choses assez simples pour que l'hôpital public puisse assurer ses missions dans des conditions acceptables pour les patients et pour les soignants, qui sont une réouverture de lits, ou en tout cas l'arrêt de la fermeture de lits pour pouvoir continuer à accueillir les patients, ce qui va être particulièrement important d'ailleurs avec les épidémies hivernales, en particulier en pédiatrie. Donc réouverture de lits, embauche de personnel, ou au moins de pouvoir garder nos personnels qui aujourd'hui fuient. Il y a un problème aujourd'hui majeur d'attractivité dans les hôpitaux. Donc on demande de pouvoir garder nos personnels et de pouvoir recruter pour avoir des personnels en nombre, parce que tous les jours, partout maintenant, on manque de personnel. C'est devenu quotidien. Et le troisième point, c'est évidemment que tout ça va passer par une augmentation du budget de l'hôpital et en particulier une revalorisation des salaires. Alors, c'est vraiment, y compris les médecins, nous sommes mobilisés pour une revalorisation des salaires, des bas salaires. Nous, on ne demande rien pour nous parce que on peut vivre avec des salaires de médecins hospitaliers, même si on pourrait gagner beaucoup plus à l'extérieur. Par contre, pour les personnels hospitaliers qui ont des bas salaires, c'est les infirmières, les aides-soignantes, les secrétaires hospitalières, les manip radio, etc. Enfin, il y a un certain nombre de personnels dans les hôpitaux qui aujourd'hui ont des salaires qui sont inférieurs à la moyenne des salaires français. Et pour les infirmières, les chiffres sont sortis il y a peu de temps. On était au 26e rang sur 29 connus. Là, maintenant, on connaît les salaires des infirmières des pays de l'OCDE. On est passé du 26e rang au 28e rang sur 32. Donc, il faut quand même comprendre que, alors qu'on a des formations, enfin, les infirmiers en France ont des formations de très grande qualité. Donc, il y a un moment où ça devient compliqué. Le système, il tient depuis des années avec la bonne volonté des gens. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un ras-le-bol général. Et surtout, ce qui nous rend la vie extrêmement difficile aujourd'hui, il faut bien comprendre que tout ça, c'est pas des revendications pour nous, pour les soignants, pour l'hôpital. Enfin, l'hôpital, c'est parce qu'on veut pouvoir assurer nos missions comme on pense qu'il faut le faire, avec ces valeurs du soin, avec ce temps qu'on pourrait passer avec les patients, de l'écoute des difficultés. Enfin, toutes les personnes qui sont passées à l'hôpital un jour savent ce que c'est et savent ce qu'on peut attendre aujourd'hui des personnels hospitaliers. Et pour nous, c'est extrêmement douloureux de ne pas pouvoir répondre aux attentes des patients aujourd'hui, de ne pas pouvoir leur dire qu'on sera là si un jour ils ont besoin d'être hospitalisés parce qu'on n'aura pas de lit, de ne pas pouvoir les regarder en face, parce que maintenant c'est presque ça, de se dire que s'il y a un souci, on ne sera plus là pour eux. C'est devenu vraiment insupportable. Sincèrement, je pense que... Là, moi, aujourd'hui, on est triste, on est en colère, et puis... En même temps, cet élan de solidarité qui s'est monté, et aussi parce que ça fonctionne comme ça, c'est un peu une famille, l'hôpital, mais cet élan de solidarité aussi qui s'est monté fait qu'on va tenir, et puis on va tenir bon parce qu'on veut pouvoir continuer à avoir un hôpital public debout. Oui.
Mais Sophie Crozier, vous le disiez vous-même, ça fait des mois que vous dites les mêmes choses. On vous entend d'ailleurs dans les médias, vous passez depuis plusieurs mois régulièrement, vous répondez aussi à des interviews dans la presse écrite, vous signez des tribunes comme 15 professionnels de santé récemment dans le journal du dimanche qui mettent en garde contre le risque d'un krach sanitaire majeur, ou cette tribune collective, ça c'était dans le Monde, 70 directeurs médicaux des départements médicaux universitaires qui signent une tribune pour alerter sur le dépérissement de l'hôpital public, nous ne sommes plus en mesure d'assurer nos missions, elles sont de plus en plus nombreuses. Entre-temps, il y a eu un plan d'urgence. La ministre de la Santé dit que c'est un plan massif, historique pour l'hôpital. Frédéric Valletoux de la Fédération hospitalière de France, Olivier Véran, rapporteur du budget de la Sécurité sociale, disent n'avoir jamais vu une telle ambition financière au service de l'hôpital. Non. Ça ne suffit pas pour vous.
C'est des effets d'annonce. Si on reprend les mesures qui ont été proposées, c'est très simple. Il y a, d'une part, on demandait une revalorisation des salaires. Je viens de parler des bas salaires. Répondre à une revalorisation de salaire par des primes, ça a été vraiment vécu, voilà, par les soignants comme du mépris. Il faut le dire. Je veux dire, quand aujourd'hui on demande une revalorisation pour arriver même pas au niveau des pays de l'OCDE, mais s'en approcher, ça représente, je suis désolée, j'aime pas tellement parler de chiffres, mais ça représente une augmentation de salaire de 300 euros. Les infirmières aujourd'hui, elles sont en début de carrière à 1600, on va dire 1600 euros. Donc, on demandait une revalorisation de 300 euros pour les infirmières. On leur propose 800 euros par an. Ça fait 60, une prime. Pas pour toutes les infirmières, uniquement pour l'Île-de-France et encore, et aussi pour, surtout pour les débuts de carrière et pour certains, et on sait pas très bien dans quelles conditions. Ça fait 66 euros par mois. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir garder aujourd'hui nos personnels hospitaliers pour 66 euros en plus? Ça paye même pas le passe.
Vous, c'est pas à moi, hein, c'est
non,
au
non,
gouvernement.
Non, non, je sais vous, je parle. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que, non, mais c'est difficile parce que ces effets d'annonce, c'est beaucoup d'argent. Enfin, même nous, quand c'est annoncé comme ça, 1,5 milliard,
une rallonge budgétaire d'un milliard et demi, oui.
Bon, donc sur la revalorisation des salaires, ça n'est absolument pas à la hauteur. Et voilà, sans être dans des revendications catégorielles, mais on peut pas imaginer qu'on va garder aujourd'hui nos soignants dans les hôpitaux et avoir cette attractivité nécessaire pour recruter avec des salaires aussi bas. Et surtout, je vais vous dire, c'est pas tant les salaires, parce qu'on pourrait se dire, ça fait des années que les soignants sont mal payés, c'est pas nouveau. Évidemment que c'est pas nouveau qu'on ait ces salaires-là. Mais avant, le système y tenait aussi avec la bonne volonté des gens et parce qu'il y avait une forme de reconnaissance. Aujourd'hui, en plus, c'est vrai qu'il y a des problèmes de management, etc., qui font que, et puis il y a eu toute une réorganisation de l'hôpital où de plus en plus on perdait, en fait, les missions, les valeurs du soin qu'on avait. Et donc, du coup, tout ça font que les conditions de travail deviennent extrêmement difficiles pour les soignants. Donc, cette revalorisation de salaire n'est pas au rendez-vous. Ensuite, les 1,5 milliard dont parle Madame Buzyn, Monsieur Philippe, malheureusement, c'est pas tout à fait exact. Alors, il faut peut-être reprendre les choses, mais ça, c'est en fait, pour être très concret, pour 2020, ça va être 200 millions d'euros en plus par rapport à ce qui était prévu, ce qui est pratiquement rien, puisqu'on va encore devoir faire entre 600 et 800 millions d'économies l'année prochaine. Et puis, il y a un remboursement de la dette. Mais c'est simple, quand on est endetté, si on vous reprend votre dette, mais que l'année d'après, on vous donne des moyens qui ne sont pas à la hauteur des dépenses, on va se réendetter immédiatement. Donc malheureusement c'est comme ça. Malheureusement, effectivement, le plan massif et urgent dont parlait Monsieur Macron, qu'on attend toujours, parce qu'il a quand même fait des annonces très importantes, il n'est pas là. C'est pas, je suis désolée, je ne suis pas sûre que Madame Buzyn et Monsieur Philippe aient vraiment pris la mesure
de la gravité de la situation.
Et peut-être ou entendu ce que Monsieur Macron souhaitait. Je pense que Monsieur Macron a bien compris. Il a dit l'hôpital public est le socle du système de français, c'est la République, etc., etc. Très bien. Moi maintenant, nous attendons vraiment des moyens
des
pour pouvoir garder, voilà, pour
au-delà
pouvoir garder l'hôpital debout.
Sur la dette, entre 2002 et 2013, la dette des hôpitaux publics français est passée de 9 à 30 milliards d'euros. Comment est-on arrivé à de telles situations alors qu'on a investi dans les hôpitaux, alors que l'activité ne cesse d'augmenter, malheureusement, enfin c'est comme ça, qu'on est dans une tarification à l'acte? Comment est-on arrivé à une situation d'endettement pareille qui fait que la situation financière des hôpitaux est dans le rouge, Sophie Crozier?
Alors, il y a eu plusieurs raisons. L'endettement, il est déjà venu du fait que chaque année, depuis 10 ans, on a des moyens qui ne sont pas à la hauteur des dépenses. Donc forcément, on s'endette. C'est-à-dire que on a une augmentation, on a une population, ça n'échappe à personne, qui a augmenté, qui vieillit, des pathologies qui sont de plus en plus chroniques, complexes, à un coût. Et puis, et encore, on n'en est qu'au début, des thérapeutiques qui sont de plus en plus coûteuses. On peut se réjouir quand même des évolutions, des progrès techniques de la médecine, mais ça a un coût. Bon. Tout ça, je suis pas sûre probablement ça n'a pas été quand même pris en compte, mais chaque année, cette évolution aussi des progrès de la médecine font qu'on a une augmentation du budget qui est de l'ordre de 4%. Et chaque année, on donne aux hôpitaux l'augmentation qui est donnée du budget est de 2%. Donc il manque chaque année 2%, ce qui représente à peu près entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Donc chaque année, depuis 10 ans, on fait des économies. Donc chaque année, on s'endette un peu plus pour pouvoir, parce que ces dépenses, il y a des choses qu'on est obligé d'assurer. Et puis il y a des économies qu'on fait parce qu'on essaye de contenir quand même ce budget. Et ce budget contraint nous a conduit à fermer des lits, à fermer des hôpitaux. On a fermé 13%, on a fermé à peu près 700 000 lits. Enfin, je veux dire, c'est énorme ce qui s'est passé depuis 10 ans. Donc, on a fermé 158 hôpitaux. Enfin, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui explique la dette, c'est que c'était dans un contexte qui n'était pas spécifique à l'hôpital, c'est qu'il y a eu aussi des emprunts toxiques, malheureusement, dans certains hôpitaux et qui ont conduit à un surendettement. Bon, donc ça, aujourd'hui, effectivement, il y a des hôpitaux qui sont particulièrement endettés et qui ne s'en sortent pas, pour lesquels il y a effectivement quasiment plus de possibilités d'investissement. Plus de capacité d'investissement, ça veut dire qu'on n'est plus, on peut plus. Alors bon, je pense que ceux qui sont passés à l'hôpital l'ont vu. Je parle même pas de l'état dans lequel sont les murs, les plafonds, etc. Parce que parfois on a honte d'accueillir des patients dans des locaux comme ça. Mais c'est aussi ne pas pouvoir avoir des blocs opératoires avec les dernières techniques qui sont disponibles. C'est ne pas pouvoir avoir les scanners, les IRM avec des moyens, vous voyez, qui seraient à la hauteur de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. On a des appareils, des investissements qui sont faits quand même, mais qui sont pas d'une qualité à la hauteur de ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui en France.
C'est ce qui se passe, Sophie Crozier, dans votre service. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité des urgences cérébro-vasculaires à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Tout ce que vous décrivez là se passe dans l'hôpital.
Oui. Alors, ce qui se passe très concrètement chez nous, par exemple, si c'est pour parler de mon service, mais encore une fois, moi, je me suis exprimée ces derniers mois, années d'ailleurs.
Répéter quand même beaucoup.
Pas du
des
tout,
choses
non,
que
non,
vous
mais
dit,
je
devais
non,
peut-être
non,
en avoir marre.
Que c'est très important. J'en ai absolument pas marre parce que je suis trop attachée à l'hôpital public pour en avoir marre. Et je pense que plus on en parlera, je comprends d'abord que tout le monde l'entende pas, mais non, j'en ai pas marre du tout. Non, nous en pratique dans le service, la situation, elle est effectivement un manque de personnel qu'on n'avait pas tellement au début parce que depuis 10 ans en tout cas, parce qu'il se trouve que les hôpitaux se sont organisés depuis 10 ans par rapport à la façon dont l'hôpital est financé avec cette fameuse tarification à l'activité, je vais en dire un mot. Les hôpitaux se sont organisés pour pouvoir développer et des activités qui sont intéressantes d'un point de vue financier. Donc les activités assez techniques, on va dire, sont assez rentables pour l'hôpital parce qu'elles ont des tarifs importants. Donc du coup, quand les tarifs sont importants, ça permet à l'hôpital d'être remboursé par la sécurité sociale avec des prix qui sont intéressants pour l'hôpital. Bref, moi, travaillant dans un service très technique, jusque-là, on était préservés. Maintenant, depuis, on va dire, 3-4 ans, même si on avait eu des difficultés de temps à autre avant, on a de façon assez régulière des manques de personnel qui se traduisent du coup parfois avec des situations telles qu'on est obligé de fermer des lits. Fermer des lits dans des situations, dans des services comme les nôtres, c'est aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai dit en particulier pour nos services, c'est inacceptable. Pourquoi ? Parce que, par exemple, moi j'accueille des patients qui font des accidents vasculaires cérébraux, donc des gens qui ont des artères qui se bougent dans le cerveau ou qui font des hémorragies cérébrales. La prise en charge dans des unités comme les nôtres permet de réduire de 30% le risque de handicap et de mortalité. Aujourd'hui, déjà, les nombres de lits en France sont insuffisants. Et quand nous, pour des raisons de manque de personnel, on est obligé de fermer ces unités. Là, j'ai appris aussi, il y en a plusieurs à Paris de ces unités, on a presque tous des lits fermés. Mais c'est insupportable. Les pompiers aujourd'hui cherchent, ils tournent. Vous voyez, c'est comme dans le sketch de De Vos. Ils tournent pour chercher des lits, alors que normalement, il faudrait qu'on puisse répondre tout de suite. Donc, on n'a pas aujourd'hui. Voilà ce que c'est le concret. Et ensuite, en termes d'investissement, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais c'est des choses vraiment absurdes. C'est du petit matériel parfois qui manque.
Sophie Crozier, mardi, la ministre Agnès Buzyn doit faire, a-t-elle annoncé, un tour de France des hôpitaux après le vote du budget de la sécurité sociale pour 2020 et afin justement de vérifier l'application de son plan d'urgence. Si elle passe à la Pitié-Salpêtrière ou quand elle va passer à la Pitié-Salpêtrière, qu'est-ce que vous comptez lui dire ?
Ah mais je pense qu'il faut qu'elle vienne voir et qu'elle rencontre les soignants. Moi, ce que je trouve assez désolant, c'est que depuis 8 mois, il y a un personnel hospitalier qui s'est mobilisé avec des conséquences importantes, y compris d'ailleurs pour leur vie personnelle et leur carrière. Il y en a une partie qui ont arrêté. Et je pense qu'elle les a pas écoutés. Donc moi, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'elle puisse entendre ce que vivent mes infirmières quand elles font 16 heures d'affilée parce qu'il n'y a pas de relève, parce que moi, j'ai une unité de soins intensifs. Il est hors de question, évidemment, que les patients se retrouvent avec un personnel insuffisant. Donc quand on n'a pas de relève, on double les heures. Et donc ça, c'est régulier. Et quand on a, et sinon, si on n'a pas de relève, on fait en salle. Parce que ça, c'est au lieu d'avoir 8 malades, elles ont 16 malades.
Donc vous nous dites, restez avec nous une journée, suivez les infirmières.
Voilà, voyez ce que c'est en fait. Et voyez l'épuisement du personnel qui continue à faire les choses. Encore une fois, je voudrais rassurer les Français, les personnels sont hyper dévoués, ils font tout pour que ça se passe bien.
Les Français, les patients, les futurs patients, ils vous soutiennent?
Oui. Ah oui. Enfin, tous ceux qu'on a vus. Enfin, malheureusement, maintenant, il n'y a pas une consultation parce que bon, j'ai une activité évidemment de prise en charge des patients en urgence dans l'unité de soins intensifs. Et puis, on assure le suivi de ces patients des fois pendant 10-15 ans. Donc, moi, il y a des patients que je suis depuis très longtemps qu'on voit en consultation. Et oui, il n'y a pas une fois où on n'en parle pas. Vous voyez, hier j'étais en consultation, avant-hier pardon, et c'était des échanges et ils demandent comment pouvoir nous aider. Enfin, on marche sur la tête quand même. Moi, j'ai reçu des mails de mes patients qui me disent comment est-ce qu'on peut vous aider. On devrait pas en être là.
La neurologue Sophie Crozier, notre invitée ce matin, elle est membre cofondatrice du collectif Interhôpitaux qui appelle à une nouvelle manifestation nationale aujourd'hui pour défendre l'hôpital public, on peut le dire comme ça. On retrouve notre invitée Sophie Crozier, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, responsable de l'unité des urgences cérébro-vasculaires dans ce même hôpital, membre cofondatrice du collectif Interhôpitaux. Sophie Crozier, pourquoi faites-vous ce métier, vous ?
Ah, c'est une question difficile. Pourquoi je fais ce métier ? Ben, je pourrais vous faire une réponse qui est
pas de Normand, hein.
Non, mais c'est compliqué. Après, c'est des questions très personnelles d'abord, parce que effectivement, on peut se demander en fait ce qui a fait qu'un jour on a voulu s'engager. Et moi, j'ai voulu faire ce métier depuis que je suis petite. J'ai personne pourtant dans ma famille qui est médecin. Et puis, je pense que on est très idéaliste. Je pense quand on veut faire ce métier, on a l'idée qu'on va pouvoir aider les autres. Bon, ensuite, sans doute, ça renvoie aussi. Il y a une image assez positive, hein. Il faut pas tout penser que donc bon, c'est assez compliqué, je sais pas, mais en tout cas moi je le fais en me disant que oui, je pense que j'avais besoin sans doute de faire un métier utile vers les autres, enfin qui soit tourné vers les autres, et puis je sais pas, mais après c'est compliqué pourquoi je fais ce métier.
Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait repenser sans doute les valeurs et le sens de l'hôpital, peut-être la place de l'hôpital public dans notre système de santé, et puis vous parlez d'idéalisme, ce serait quoi l'hôpital dont vous rêvez ? Peut-être que vous l'avez connu d'ailleurs, je ne sais pas.
Oui, on l'a connu en partie ici, on l'a connu parce qu'il faut être très clair, je pense qu'il y a 20 ans, 25 ans, moi en tout cas quand on était interne, on cherchait, enfin on avait tous, la majorité d'entre nous, toute ma promotion et aussi au début de mes études d'externe, etc., on avait tous envie de rester à l'hôpital. On se battait presque pour rester à l'hôpital. C'était vraiment, c'était la réussite. C'était là où on allait faire la meilleure pratique médicale. On allait pouvoir accueillir tout le monde avec la même qualité des soins, quels que soient les patients qui peuvent être arrivés, qu'ils soient graves, pas graves, riches, pauvres, etc. Donc c'est vraiment un lieu d'accueil absolument extraordinaire. C'est aussi un travail en équipe. Enfin, moi, ce qui m'a plu dans le fait de rester à l'hôpital et de travailler à l'hôpital, et je ne quitterai pas l'hôpital, j'ai pas envie, même s'il y a des fois on est épuisé, que les conditions de travail deviennent difficiles. Ben aujourd'hui, l'hôpital, ça reste quand même un travail d'équipe qui est absolument extraordinaire. Et puis avec des rencontres, moi, ce qui me nourrit tous les jours, c'est les rencontres avec les patients, parce qu'on apprend énormément. En fait, c'est des leçons de vie à chaque fois. Donc, c'est des échanges, c'est des rencontres, et je pense qu'on donne autant qu'on reçoit en réalité à l'hôpital. Ouais.
Dans le journal Le 1, il y a un an, dans une discussion avec Frédéric Worms, vous disiez la médecine, c'est un art, pas une science. Tout le monde partage pas cet avis, Sophie Crozier, vos collègues.
Oui, peut-être quand on est, peut-être au début de nos études médicales, on peut imaginer que ça puisse être une science. Non, tout ce qui touche à l'humain, ça peut pas être une science. En tout cas, c'est pas une science dure. Et c'est plus un art parce qu'on est dans l'humain, parce qu'il y a une part d'incertitude, et c'est ça qui est aussi riche d'enseignement. En fait, c'est cette rencontre, c'est de ne pas savoir aussi même. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions autour du pronostic, de comment est-ce qu'on pouvait envisager ça de la part du côté des soignants, des médecins et de la part des patients, mais cette part d'incertitude, elle est absolument fondamentale dans notre pratique médicale, et elle est essentielle parce que si on sait d'avance ce qui va arriver, on n'est pas en capacité d'écouter l'autre en réalité. Et si on sait déjà en avance ce qu'il va pouvoir dire, on l'écoutera pas et on cherchera pas à savoir. Et en fait, c'est ce qui permet aussi la rencontre, les échanges et la construction d'un savoir commun et d'essayer de comprendre ce qui se passe, c'est que chaque situation est particulière. L'humain, on est tous particuliers. Donc les situations sont toutes différentes. C'est aussi ça ce qui change d'ailleurs. Quand on est dans notre pratique, quand on fait nos études de médecine, on apprend des choses évidemment avec dans des cadres très très serrés et très. Et puis quand on arrive sur la pratique, quand on vraiment commence à exercer notre métier, on s'aperçoit qu'une grande partie de ce qu'on a appris est différent et qu'il y a des patients qui se présentent avec des symptômes qui étaient décrits dans les ouvrages comme étant, je ne sais pas, par exemple une insuffisance cardiaque et en fait en réalité c'est un problème d'asthme, etc. Enfin, donc on découvre, il y a une grande partie dans la pratique médicale justement qui est pas uniquement de l'enseignement théorique, mais de quelque chose qui est plus empirique et c'est aussi ça. Alors moi j'y suis particulièrement attachée parce que probablement je pense que dans ce qui me plaît dans mon métier, c'est l'humain et c'est cette partie-là, oui.
En particulier le cerveau, puisque vous êtes neurologue, oui. Vous êtes donc spécialiste en neurologie. Le métier a changé, Sophie Crozier, la relation médecin-patient aussi, peut-être même du fait des nouvelles technologies ou des progrès techniques, du fait même que on a de plus en plus de certitudes qui nous viennent des techniques quand on est médecin. Est-ce que vous diriez que les médecins écoutent toujours autant les patients et vice-versa d'ailleurs, ou est-ce qu'il y a une rupture de dialogue et une rupture de confiance, peut-être pas générale, mais quand même que vous constatez de plus en plus, du fait de ce changement de relation?
Non, je suis pas sûre. Il n'y a pas tant de choses qui ont changé. Alors, paradoxalement, mais c'est aussi comme aussi parfois le questionnement éthique survient quand on est dans des situations de grands bouleversements et de grands changements qui amènent du coup à une espèce de balancier. Mais si vous voulez, justement l'arrivée de ces nouvelles techniques, le fait de pouvoir toujours aller plus loin aussi dans l'engagement médical, de pouvoir parfois dépasser certaines limites, voire de pouvoir ce qui peut conduire parfois à garder des personnes dans des situations de survie qui peuvent être questionnables, etc. Vous voyez, fait qu'aujourd'hui, on s'interroge aussi beaucoup, en fait, obligatoirement. C'est-à-dire que ça nous interroge obligatoirement sur la finalité de nos actes soignants. Donc, j'allais dire, non, je pense que, enfin, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui ont changé aussi en bien. Ce qui a changé en bien, c'est qu'il y a eu quand même un mouvement qui a été un mouvement droit des patients, en particulier, malheureusement, enfin, au moment de la grande épidémie de sida. C'est quand même de là qu'est né le mouvement de droit des patients. Et ça a été quand même, c'est une révolution importante, hein, très importante, la place aujourd'hui des patients et des usagers dans le système de santé. D'ailleurs, je voulais y revenir par rapport à la question juste avant la chronique précédente, mais vous me demandiez la place des patients, des usagers. Et en fait, ils sont absolument majeurs aujourd'hui et ils sont à nos côtés, notamment dans le collectif interhôpitaux, parce que le collectif interhôpitaux qu'on a justement monté, il associe des soignants, des personnels hospitaliers, pas uniquement des soignants, parce qu'il y a d'autres personnels à l'hôpital, des médecins et des usagers qui sont très impliqués aujourd'hui, qui se mobilisent aussi parce qu'ils connaissent l'hôpital et qu'ils veulent le garder. Donc cette relation aussi, cette co-construction aujourd'hui, et aussi du savoir où maintenant on a des patients, vous savez, qui viennent à l'université, enfin qui viennent dans les universités, qui viennent rencontrer les étudiants, qui viennent parler de leur vécu de la maladie. Et ça, pour moi, c'est une avancée majeure et moi, j'aimerais, enfin, oui, dans un monde idéal, vous me disiez, mais oui, je pense que ça, c'est une des avancées importantes sur lesquelles on peut espérer encore beaucoup, mais je voudrais que ça soit encore plus important. Je pense que c'est important pour les étudiants en médecine aujourd'hui d'avoir ce regard-là, ce vécu aussi, cette expérience qu'ont les patients. Ils ont un savoir que nous n'avons pas. Il n'y a aucun d'entre nous qui peut savoir ce que le patient vit. On peut les écouter, il faut évidemment énormément les écouter, mais ce savoir, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui est une valeur ajoutée majeure dans l'enseignement de la médecine aujourd'hui. Et ça va être un plus. Donc c'est vrai que les relations ont peut-être changé, mais pas forcément.
C'est un peu différent. Forcément en mal,
non,
hein,
mais parce qu'on peut se demander en fait. C'est vrai qu'il y a des fois cette médecine de plus en plus technique peut arriver à.
On voit de plus en plus de médecins qui n'osent pas toucher les patients, ouais, par exemple.
Alors ça c'est vrai. Il y a des patients.
Le potier, disait Didier Sicard, il a un peu disparu. La clinique, quoi.
Non, c'est vrai.
On tape sur un ordinateur.
Là où vous avez ça, vous avez raison.
Je
pense qu'on touche. Non, vous avez raison. Ah si, il y a des choses qui change. De ce point de vue-là, oui. Moi, je regarde. Oui, c'est vrai que je voyais les choses un peu. Mais dans les consultations, il y a des choses qui changent. Oui, on examine moins les patients parce qu'on a effectivement maintenant. Moi, je vois dans mon métier l'imagerie cérébrale. Donc, avant l'examen neurologique, bon, c'était une des choses moi qui m'avait. Même si quand même, je suis pas si vieille que ça, mais on avait accès déjà à l'imagerie cérébrale, etc. Mais l'époque où il n'y avait pas, c'est-à-dire avant les années 70 par exemple, où on n'avait pas le scanner, encore moins l'IRM, l'examen clinique était fondamental. Avec un, si vous examiniez bien le patient, vous saviez exactement où il avait, où était la lésion au niveau cérébral.
L'idée, c'est que ça ne remplace pas, l'idée que ce soit complémentaire.
Et voilà, mais du coup, on examinait beaucoup, beaucoup les patients. Et là, certains, d'ailleurs, les patients les plus âgés, parfois le signalent. Hein. Moi, j'ai eu des patients en consultation qui m'ont dit, qui nous disaient, mais vous ne nous avez pas examiné, etc. Donc, c'est vrai qu'on touche moins les patients. Par contre, je pense qu'on les, en tout cas, il y a une, peut-être pas tout le monde, mais il y a quand même une évolution vers plus de dialogue, vers plus d'écoute, etc. Ça, oui. Mais c'est vrai que sur l'examen, ça change un petit peu, oui.
Juste une dernière question, puisque vous travaillez en neurologie vasculaire, hein, c'est-à-dire que vous prenez en charge les patients, vous le disiez tout à l'heure, victimes d'accidents cérébrovasculaires, ce qu'on appelle dans le langage courant les AVC. On ne sait pas grand-chose sur les AVC. Juste en quelques mots, comment on les évite?
Oh si, on sait pas mal de choses quand même, il y a encore. Mais il y a beaucoup, je vous dis, on gardera de toute façon une part d'incertitude. Mais enfin quand même sur les questions de ce que c'est que l'accident vasculaire, on sait quand même à peu près, on sait bien les caractériser. On cherche effectivement à trouver la cause, les causes des accidents vasculaires. En gros, les accidents vasculaires, dans la majorité, dans 80% des cas, c'est une artère qui se bouche. Et en fait, elle se bouche pour différentes raisons. Mais les deux raisons principales, c'est soit parce que on a un problème d'arythmie cardiaque, par exemple. Quand le cœur est irrégulier, des cailloux peuvent se former dans le cœur et puis hop, partir et donner une embolie. Donc, un caillou qui va migrer dans une des artères cérébrales et entraîner, du coup, un infarctus. Donc, une région qui va être moins bien irriguée et donc des conséquences selon la localisation qui dépendront de ça. Et puis, l'autre grande cause, c'est les artères qui s'encrassent. Donc, en gros, vous disiez comment éviter ça, mais la première chose, c'est la prévention. C'est la prévention. C'est principalement l'hypertension artérielle, le tabac, le cholestérol, le diabète, le surpoids. Donc, il y a des facteurs de risque qui sont quand même bien identifiés, comme pour les infarctus du myocarde. Mais ça aussi, vous voyez, par exemple, c'est un enjeu majeur. On entend nos ministres qui nous disent c'est très important de faire de la prévention. Mais aujourd'hui, c'est pas là où on a mis finalement les moyens. Il y a beaucoup d'injonctions paradoxales aujourd'hui dans le discours de nos responsables, que ça soit nos directions ou nos responsables politiques, parce que faire de la prévention aujourd'hui, c'est un élément majeur, mais c'est pas là où on arrive à faire le mieux là.